Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour cette édition du journal de Nu Info. Au menu, alors que les opérations turques se poursuivent en Syrie, des milliers de personnes fuient vers l'Irak. L'OMS se félicite de l'approbation conditionnelle d'un vaccin contre Ebola. En Libye, des réfugiés paient pour accéder au centre de détention en quête de protection, signale le HCR. Et en dossier, nous revenons sur le rôle du secteur privé dans la lutte contre la désertification au Burkina Faso. Malgré l'annonce de la cessation des hostilités entre les forces turques et l'armée kurde soutenue par la Syrie, les violences se poursuivent dans le nord-est de la Syrie et les gens fuient par milliers en quête de sécurité. Plus de 2300 personnes ont déjà fui les combats ces derniers jours pour se réfugier en Irak. Les agences humanitaires intensifient leurs réponses à l'instar du HCR, comme le précise Andrei Maichich, porte-parole du Haut-Commissariat aux réfugiés.
Pour la quatrième journée consécutive, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés a accueilli des centaines de réfugiés du nord-est de la Syrie qui traversent la frontière irakienne. Les réfugiés viennent principalement de villes septentrionales telles que Kobani, Amoda et Kamishli, ainsi que de villages environnants. Selon les équipes du HCR, après une semaine de violence dans le nord-est de la Syrie, les combats ont semé le chaos parmi les civils, frappant durement les plus vulnérables. En 4 jours, plus de 2300 réfugiés syriens ont été transportés des zones frontalières vers le camp de réfugiés de Bardarache, à quelques 100 km de l'est de la frontière syro-irakienne. Le site a été préparé pour accueillir les derniers arrivants, fuyant les combats dans le nord-est de la Syrie. Des réfugiés nouvellement arrivés ont dit aux équipes du HCR qu'il leur a fallu des jours pour arriver à la frontière alors qu'ils fuyaient au milieu des bombardements et des combats. La plupart des nouveaux arrivants sont des femmes, des enfants et des personnes âgées.
L'Organisation mondiale de la santé s'est félicitée ce vendredi de l'autorisation conditionnelle accordée au vaccin Zebov, Z-B-O-V, contre l'Ebola par l'Union européenne. Un vaccin qui a déjà permis de sauver de nombreuses vies dans l'épidémie actuelle d'Ebola en RDC et pourra en sauver beaucoup d'autres avec cette décision. Sur le terrain, l'OMS constate avec prudence une baisse des cas encourageante. On constate toutefois des incidents sécuritaires, dont le saccage des centres de traitement à Biakato, en Ituri. Martial Kiza Biamungu pour les détails.
C'est vers 19h, heure locale, qu'un groupe d'habitants composés essentiellement des jeunes ont envahi 4 structures sanitaires de Biakato Centre, au quartier Mupanda et Bandikindu, dans les groupements Babila Tetouri, en chefferie de Babila Babumbi. Il s'agit des postes de santé de Bora Ouziba, Ushindi, la clinique Bismillah et la pédiatrie La Grâce. D'après les témoignages de certains activistes des droits de l'homme qui se sont rendus jeudi sur place, ces manifestants ont d'abord saccagé tous les dispositifs des lavages de mains et les postes d'isolement des cas suspects d'Ebola. Ils ont ensuite menacé de tuer les responsables du poste de santé Bora Ouziba. Ce dernier a eu la vie sauve grâce à l'intervention de l'un de ses hommes qui a dissuadé ses compagnons en prétestant que cet infirmier n'est pas membre de l'équipe des ripostes. La police affirme avoir appréhendu 6 personnes. Elle affirme pour le moment que la situation est relativement calme à Biakato Centre. Cependant, la police demande à la population d'alerter à temps les forces de sécurité pour prévenir les violences contre l'équipe de riposte dans la zone.
En Libye, les violences continuent d'impacter la situation des migrants et des réfugiés. Selon le HCR, le pays compte près de 46 000 réfugiés, la plupart des Syriens. L'agence œuvre à la vérification de leurs dossiers et à leur trouver des places de réinstallation. Une tâche difficile qui provoque des déceptions. Le HCR ne disposant que de 55 000 places pour répondre aux besoins de tous les réfugiés qui se tournent vers l'agence à travers le monde. Malgré les conditions minables dans les centres de détention libyen, les réfugiés se retrouvent à payer pour y accéder. Le représentant du HCR pour la Méditerranée, Vincent Cochetel, explique pourquoi.
Les gens y vont pour se protéger parce qu'il y a des gens qui ont très peur des trafiquants. Quand vous voyez les images sur les réseaux sociaux des gens qui ont été pris par les trafiquants, c'est des tortures qui sont souvent filmées. Les images sont balancées sur les réseaux sociaux pour obliger la famille à payer des rançons. C'est comme ça que ça se passe. Dans les centres de détention, généralement, les conditions sont mauvaises. Il y a quelques centres de détention où les conditions sont un peu moins mauvaises, un peu moins surpeuplées. Puis bon, les organisations humanitaires ont parfois un meilleur accès à certains centres de détention qu'à d'autres. Il y a des zones urbaines où on n'a pas du tout accès aujourd'hui à Tripoli. Donc il y a des gens qui, malheureusement, cherchent cette solution en pensant qu'ils vont aller dans un centre de détention, on arrivera à les faire sortir après, on va leur trouver une place de réinstallation. Je comprends les attentes, je comprends la frustration, je comprends leur peur, mais on ne peut pas trouver des solutions comme ça pour tout le monde. C'est juste pas possible.
Le secteur privé a un rôle crucial à jouer aux côtés des Nations Unies pour lutter contre la désertification en conservant et restaurant les terres. C'est le message du secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, Ibrahim Thiaw. Il était à New York fin septembre pour participer au sommet Action Climat. Au micro de Jérôme Bernard, il donne des exemples de succès de conservation et de restauration des terres au Burkina Faso et au Niger, et souligne l'importance de la participation du secteur privé à ces efforts.
Plein d'exemples qui sont à succès. Je vous donne peut-être l'exemple le moins évident pour vous. Vous savez que le Burkina Faso est l'un des pays les plus pauvres au monde. C'est une population qui vraiment survit dans un pays enclavé, très chaud, avec très peu de ressources naturelles. Ça fait bientôt 40 ans que les Burkinabés ont commencé un grand mouvement de lutte contre la désertification. Aujourd'hui, dans la province de Yatenga, au Burkina Faso, malgré le fait que la population humaine a quadruplé, il y a plus d'arbres au Yatenga cette année qu'il y en avait à l'indépendance. Et ça, c'est un travail énorme de gens qui ont travaillé avec la houe et la daba, mètre carré par mètre carré, pour restaurer leur milieu naturel. Des exemples comme ça font légion, mais ils ne sont pas connus. On n'en parle pas, on parle beaucoup plus. On est beaucoup plus à même de parler du terrorisme et des attaques des institutions que des structures terroristes sont en train de perpétuer, comme pour faire leur publicité. Et on ne parle pas souvent des efforts incommensurables qui sont faits par les populations pour répondre à leurs besoins et nourrir leur population. Même chose au Niger. Je peux vous amener dans la région de Zender, dans le sud-est du Niger, où des efforts sont faits par des paysans avec très peu d'appui d'ONG pour restaurer le milieu naturel et créer des conditions de production pour... Je peux vous parler de l'Éthiopie, je peux vous parler du Sénégal. Les exemples sont légion seulement en Afrique, pour ne parler que du continent africain. Mais on retrouve des situations similaires au Pérou, en Chine, en Inde et dans d'autres régions du monde. Mais on a cette sensation de parler du sensationnel. Et ça, c'est un travail énorme qui ne fait pas surface parce que c'est pas... Ce n'est pas newsworthy, comme on dit. Donc, il va falloir qu'on crée une opportunité pour que le monde comprenne que c'est possible et que ça inspire d'autres personnes pour faire la même chose.
Quel rôle peut jouer le secteur privé aux côtés des Nations Unies pour lutter contre la désertification?
Alors ça, c'est une question extrêmement importante. Merci de l'avoir posée. Le secteur privé a toujours joué un rôle sur les sols. Mais le secteur privé a joué un rôle d'extraction minière, d'extraction pour l'agriculture. On vient dans une zone fertile, on déforeste, on plante, on extrait, et quand la terre se fatigue, on va vers une autre parcelle, on continue une espèce de croisade contre le milieu naturel. Ce que nous recommandons aujourd'hui, ce que nous voyons maintenant, c'est le même secteur privé qui dit « ça, c'est pas durable ». Nous voulons avoir des investissements à long terme, nous voulons sécuriser les investissements, parce qu'à chaque fois que nous exploitons une parcelle, nous investissons beaucoup sur la technologie et sur les ressources. Donc nous voulons avoir des activités qui vont nous permettre de perpétuer notre opération sur la même unité de surface. Donc c'est ça la lutte contre la désertification. C'est de réduire l'expansion des territoires agricole, c'est d'intensifier la production autant que possible, mais en tout cas c'est de minimiser l'empreinte humaine sur le milieu naturel. Bien sûr, ça veut dire réduire la déforestation, mais ça veut dire aussi reconstituer les milieux naturels qui sont déjà dégradés pour les rendre encore productifs. Les études économiques qui ont été faites ont prouvé que chaque dollar investi sur la restauration des terres rapporte entre 5 et 30 dollars en ressources. Donc c'est du business qui est profitable. C'est pas philanthropique. Donc, ça peut se manifester sous forme d'activités agricoles, plantation de thé, ça peut se manifester sous forme d'activités touristiques avec des zones de conservation de la faune qui sont des zones touristiques qui rapportent de l'argent. Tout ça, c'est de la conservation. Ou ça peut être récupéré d'anciennes zones minières dont les mines ont dégradé le milieu naturel. On reconstitue ce milieu naturel et on en fait des zones de production de nouveau, ou alors on en fait des zones de récréation. Et ceci a déjà été prouvé dans beaucoup de pays, aussi bien du nord que du sud. Donc il y a des millions d'hectares qui sont aujourd'hui dégradés par l'activité humaine que l'on peut remettre en ordre, pour ainsi dire.
Voilà, fin de ce journal de Nu Info à retrouver sur notre page internet et sur nos comptes Twitter, Facebook et SoundCloud. Merci de votre fidélité. On se retrouve lundi, même heure, même fréquence.